marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Histoire que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter est la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions.
Le ski avant les JO.
Notre ancêtre préhistorique parvint au hasard de sa course, dans l'orbe des saisons, au bord inattendu d'une immense pente neigeuse et, voulant l'aborder, il s'aperçut qu'il enfonçait, dérapait, tombait à chacun de ses pas, mais que son tronc d'arbre glissait aisément sur cette étrange matière blanche. Détachant alors, à grands coups de sa hache de pierre, deux morceaux de ce bois qui lui semblaient tabous, il les attacha sous ses pieds par des lanières de peau de renne et put ainsi poursuivre sa route sur la neige. Les skis venaient d'être inventés.
C'est du moins l'interprétation de Denise Vautrin dans l'Heure de culture française, une émission de la Radio Nationale d'autrefois. Comment augmenter la surface portante afin de marcher dans la neige sans s'enfoncer? Comment utiliser la neige pour aller encore plus vite que le gibier? Les raquettes, planches et planchettes viennent de très loin. Et nos aïeux du nord de l'Europe ne les utilisaient pas pour leur plaisir. C'était des instruments de première nécessité. Le ski est d'abord utile. C'est curieusement quand il devient sportif, on ne dira pas futile, que l'archéologie commence à découvrir dans les marais et les tourbières de Scandinavie les témoignages des premiers objets glissants utilisés dans le nord de l'Europe. En 1921, on retrouve un ski d'1,10 m de long et de 10 cm de large. C'est le ski de Hotting qui est daté de 2500-3000 avant notre ère. Trois ans après, cette découverte en 1924 ouvre les premiers Jeux Olympiques d'hiver. Ils ont lieu à Chamonix. C'était une station d'été, c'est devenu une station d'hiver, comme Saint-Moritz, qui sera le siège des seconds Jeux Olympiques en Suisse. La Suisse, la France, l'Autriche, au moment où l'archéologie affirme l'antériorité du ski nordique, le ski alpin se développe. Mais au Jeux de 1924, l'épreuve reine, c'est encore le fond et le saut dans la ligne de l'expérience accumulée depuis la nuit des temps.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Yves Balu, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez écrit beaucoup sur la montagne, mais votre premier livre, 1982, nouvelle édition Artaud 2014, c'était sur le ski.
Et oui, l'épopée du ski, absolument.
Et vos débuts dans le ski, on ne va pas parler de vos débuts dans l'édition, vos débuts dans le ski.
Mon début dans le ski, c'est une vocation un peu tardive. J'ai découvert le ski à l'INSA, l'école d'ingénieurs de Lyon, où j'étais, et qui proposait donc à ses étudiants une semaine de ski. Et j'ai découvert le ski, je n'avais jamais fait de ski avant, et j'ai trouvé ça formidable.
Mais je croyais alpiniste avant d'être skieur, c'est l'inverse.
Non, je ne sais pas comment font les autres. Moi, j'ai commencé par le ski, par le hasard. Et toujours le hasard, la montagne un peu plus tard, quand dans une famille qui est devenue ma belle famille, j'ai appris qu'on pouvait faire de la montagne, même quand on était parisien, parce que c'était mon cas, on commençait à apprendre à grimper à Fontainebleau, l'escalade. Et puis après ça, on lisait des livres et on rêvait d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, à Chamonix, gravir les sommets que d'autres avant nous avaient gravis. Et donc, j'ai fait mes classes comme ça.
Alors, vos livres sont innombrables et réputés pour leur sérieux. Il y en a un que vous préparez pour l'automne, qui va être consacré à ce que disent les journaux et les journalistes de la montagne. Alors là, c'est assez formidable comme expérience, parce que les journalistes ne connaissent pas grand-chose, souvent, de ce qu'ils racontent à un public qui, lui non plus, ne sait pas grand-chose.
C'est vous, Jean Lebrun, qui osez le dire. Mais je serais pas en désaccord avec vous. C'est vrai que quand on met en regard la presse spécialisée, c'est-à-dire les revues de montagne, des clubs alpins, etc., et la presse générale, la presse grand public, on s'aperçoit effectivement que les journalistes de la presse grand public, ils ont surtout comme objectif d'intéresser, pas forcément d'instruire, mais d'intéresser leurs lecteurs avec des choses sensationnelles. Donc ils choisissent à la fois les événements et à la fois l'angle de vision de ces événements-là. Et donc ça donne parfois des choses intéressantes et assez cocasses même.
Donc les spécialistes pardonneront mes erreurs, mais je vais paraître savant au début en reprenant le titre d'un livre du XVIe siècle sur lequel vous insistez beaucoup, On va se borner à l'Europe et commencer par le nord de l'Europe. Historia de gentibus septentrionalibus.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est que ce livre ?
Eh ben, c'est un livre, donc, comme son titre l'indique, des gens du nord, écrit par un évêque qui avait probablement jamais mis les pieds dans ces pays-là. En tout cas, lui, peut-être, mais pas le graveur qui l'a chargé d'illustrer ce livre, qui est un livre extraordinaire avec des centaines d'illustrations dans lesquelles on voit les premières représentations de skis. Et donc, pourquoi je dis qu'il ne les a pas vues ? Parce que ce sont des skis qui sont comme un peu des grands sabots, c'est-à-dire très longs, très pointus, mais rien derrière le talon. Vous imaginez bien qu'avec avec un engin pareil, on ne peut pas tenir dans la neige, on tombe forcément. Il faut que le ski se prolonge derrière le talon. Donc, c'est très rigolo parce qu'on voit des gens qui font la guerre, des gens qui s'occupent d'activités diverses, agricoles, choses comme ça, mais beaucoup la guerre, avec des skis.
Et des skis ou un ski ?
Des skis. Des skis, non. Le monoski n'était pas encore inventé.
Mais on n'a pas commencé avec un seul objet sur lequel on se posait comme
alors,
on pouvait,
j'étais pas,
avec les lanières qu'on pouvait utiliser.
J'ai pas assisté aux toutes premières expériences de ski parce que je pense que ça remonte à l'époque où nos ancêtres étaient confrontés à quelque chose de très difficile, c'est-à-dire se déplacer en hiver dans la neige, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de congélateur, il fallait trouver du gibier tous les jours, donc se déplacer en hiver dans la neige et donc trouver le moyen d'abord de ne pas enfoncer, ensuite de marcher et si possible d'aller vite et si possible même aussi vite que le gibier qu'on poursuivait, et donc ils ont spontanément, progressivement, ils ont trouvé cette idée donc d'augmenter la surface portante sur la neige et d'arriver non pas à marcher mais à glisser sur la neige. C'est moins fatigant, c'est plus rapide.
J'ai bien noté deux skis, et d'ailleurs vous citez d'autres livres du XVIIe siècle où sont données les premières leçons avec les deux skis. Il vaut mieux les maintenir en parallèle.
Oui,
disent les meilleurs auteurs.
Si possible, parce que c'est quand même plus facile de se mouvoir sur la neige avec des skis. Ces longues planches, qui étaient du reste très très longues à l'époque, beaucoup plus longues que ce qu'on a connu plus tard, très longues planches, et c'était plus facile de les tenir parallèles pour avancer quand même.
De ski, un bâton.
De ski, alors, un bâton ou deux bâtons, il y a plusieurs écoles.
À cette époque, en Scandinavie, dans les gravures, 16e, 17e...
Dans les gravures les plus anciennes, effectivement, on voit les gens avec un seul bâton, avec une espèce de rondelle en bois et un seul bâton.
Alors, vous expliquez que peu de textes français s'intéressent au ski au XVIIIe siècle. Cependant, vous ne le citez pas, je veux faire sa place à Jean-Baptiste de Lesseps. Pas seulement parce que c'est l'oncle du Lesseps le plus connu, c'est un étrange personnage. Il était diplomate de son état, navigateur, il avait participé à l'expédition de La Pérouse et il s'est retrouvé bloqué au Kamchatka, donc à l'extrémité de l'Empire russe, le terrible hiver 1788-1789. Et il va rejoindre, par tous les moyens glissants possibles et imaginables, Irkoutsk.
Ce jeune homme, d'une vingtaine d'années, vient de traverser la Sibérie, du Pacifique à l'Oural. Interprète du roi Louis XVI, compagnon de la Pérouse, il s'appelle Jean-Baptiste de Lesseps, nom qu'un de ses neveux plus tard rendra célèbre. C'était il y a presque deux siècles. Dans le récit de son voyage, il nous décrit minutieusement son équipement, ses traîneaux à chiens, et aussi ces patins de bois dont il a appris l'usage auprès des indigènes du Kamchatka. Les gravures de son livre montrent que ces skis, car ce sont des skis, sont très proches de nos skis actuels. Écoutez-le. Après des débuts maladroits, cela devient, dit-il, un passe-temps des plus agréables. Le premier skieur du monde moderne et le premier qui en proclama l'utilité mais aussi les plaisirs fut donc un de nos compatriotes. Déjà, l'histoire du ski français se confond avec celle du ski mondial.
Déjà au 18e, c'est Marcel Ishak, excellent cinéaste, enfin historien peut-être plus approximatif, qui le proclame. L'histoire du ski français et l'histoire du ski mondial se confondent. Vous insistez au 19e siècle sur l'importance de la Norvège.
Ah oui, alors avant de parler de la Norvège, je veux juste un tout petit peu corriger Marcel Ishak. Le premier livre français dans lequel on voit des skis, il faut lui rendre cette justice, c'est un livre de Balzac. C'est un roman qui s'appelle Serafita, et dans lequel on voit effectivement une de ses héroïnes qui glisse sur la neige avec des skis. Voilà. Donc c'est le tout premier ouvrage français dans lequel on voit des skis. Voilà.
Justement, on est au 19e où alors, les illustrations norvégiennes sont nombreuses.
Alors, en Norvège, effectivement. Alors, en Norvège, le ski Et au 19e, quelque chose qui est non seulement pratiqué, mais très populaire. Parce que ça vient de très loin, et ça sert à la vie courante. Et donc les gens se servent, parce qu'évidemment la neige, ils en ont beaucoup, beaucoup plus que nous. Et donc ils se servent des skis pour se mouvoir. Mais on peut imaginer aussi, et c'est ce qui s'est passé, c'est que le samedi, le dimanche, quand ils n'ont plus rien à faire d'utile, ils ont toujours leur ski. Donc ils s'amusent un peu. Ils s'amusent entre eux.
Vous allez prononcer le mot futile, je sens ça. Non, on l'évitera. Non, parce que ce sont des véritables compétitions, des concours en tout cas qu'ils organisent, les Norvégiens.
Futile, je le garde pour tout à l'heure, pour un peu plus tard. Donc je ne prononce pas encore, parce que ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est simplement un prolongement d'une activité qu'ils pratiquent couramment et qu'on se transmet de père en fils, etc. Mais qui, logiquement, les amène à s'amuser entre eux, tout simplement dire... c'est le premier qui arrive là-bas, quoi, celui qui va le plus vite. Et donc progressivement, donc les premières compétitions naissent comme ça. Et puis il y a les collines, et donc on part du sommet d'une colline, c'est le premier qui arrive en bas. Et voilà. Donc les premières compétitions, effectivement, voient le jour au milieu du 19e siècle en Norvège.
Compétition entre villages.
Entre villages.
Une pratique tout droit sortie de la tête d'un menuisier norvégien dans les années 1850. La pente qui relie sa maison au village est trop raide pour la descendre avec les skis de l'époque qui permettent d'aller tout droit et rien que cela. Il a l'idée de retailler le ski. Il lui donne une taille de guêpe et l'équipe d'une fixation qui libère le talon. Pour tourner et réduire sa vitesse, il suffit de fléchir le genou. Sander Norheim donne à sa technique le nom de sa province, Telemark. Depuis ce temps-là, le matériel a évolué, mais pas tant que ça.
Il faut savoir que c'est la fixation qui est l'équivalent de l'origine du ski. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait à l'époque la norme 75. Ça va rappeler des bons souvenirs aux pratiquants. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins qu'un étrier qui fait effectivement 75 mm de large.
Et la fameuse languette.
Et la fameuse languette, 75, voilà. Qui se met dans notre étrier. Voilà. Puis après, avec l'ajustement en talon, on vient fermer notre talon.
Bon, alors là, il faut être précis. Hein. Il faut être sérieux. Norme 75, ça rappelle quelque chose aux habitués. La languette. Il s'agit seulement de l'équipement pour le Telemark, de l'équipement pour le Christiania, parce qu'il y a ça aussi, qui est inventé en Norvège, nom de la capitale de la Norvège.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auditeurs à qui les normes 75 évoquent des souvenirs.
Moi non. Mais c'est pas une marque,
Non, c'est une norme, je pense, de l'époque, mais qui n'est plus en usage. Bon. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y avait deux écoles en Norvège de pratique du ski, celle de Telemark et celle de Christiania. Et pour faire simple, Christiania, les skis sont parallèles et restent parallèles en toute occasion, y compris quand on fait un virage. Et le Christiania, c'est différent, c'est que il y a un ski qui s'ouvre, le ski extérieur qui s'ouvre pour effectuer le virage. Et le Christiania, comme ça vient d'être dit, se fait avec une fixation dont le talon est libre. C'est-à-dire, c'est la fixation du ski de plaine, ou le ski de fond, comme on dit maintenant, où on marche avec des skis. Alors que le Christiania, le talon reste solidaire du ski en permanence. Et le Telemark, qui est un très joli mouvement, c'est presque un mouvement de danse, un très joli mouvement de danse, de rotation, de virage, revient à la mode maintenant. On voit maintenant sur les pistes de ski des gens qui ont de nouveau ces fixations qui leur permettent de lever le talon et de faire ce beau geste de virage.
Alors restons avec les Norvégiens dans l'épopée du ski. Votre livre chez Arto, vous consacrez un fort chapitre à Fridtjof Nansen. Alors voilà un garçon qui en 1882 a embarqué sur un baleinier et qui s'est retrouvé bloqué pendant près d'un mois et il voyait au loin le Groenland. Et l'envie l'a démangé de parcourir le Groenland.
Plus que le parcours, de le traverser complètement. C'est ce qui était un exploit à l'époque un peu inimaginable. Et qu'il n'a pu réussir, c'était du reste une idée de génie. que grâce au ski. Évidemment, le ski était dans ses gènes, donc l'idée lui est venue naturellement à lui, ce qui serait pas venu, certainement pas venu à d'autres que lui. Donc il a eu l'idée de dire bon, je vais essayer de traverser le Groenland avec des skis, avec des traîneaux, donc des traîneaux qui glissaient également sur la neige, sur la glace. C'est pas simple parce que le Groenland c'est pas un grand champ de neige, c'est pas damé. Hein. Il fallait traverser des endroits avec des séracs, des blocs de glace, etc. Enfin, c'est pas évident. Et ça a pris des jours et des jours.
Mais... Ça a donné lieu à de belles illustrations dans le livre qu'il a consacré à la traversée du Groenland, qui a été traduit en France dès 1893, qui a eu beaucoup d'écho.
Alors, un livre essentiel, ce livre est un peu le livre fondateur du ski dans le monde, et en particulier dans les Alpes, parce que beaucoup de gens ont lu ce livre, qui est un livre d'aventure extraordinaire, et on se sont aperçus, notamment grâce, comme vous le dites très justement, avec les gravures, qui pour le coup n'étaient pas comme celles d'Alox Magnus, c'était elles assez réalistes. On voit bien les skis, on voit bien la technique du ski, on voit même les dangers. Il y a une gravure extraordinaire, on voit un monsieur qui est dans une crevasse, qui se tient avec les bras à chaque côté, hein, et qui, on a peur pour lui. Voilà. Et donc ce livre a popularisé le ski dans le monde entier.
Ces gravures, on les retrouve dans l'illustration où on voit en 1893 trois skieurs avec le bonnet, le pantalon, les jambes molletières, les bandes molletières, et puis deux bâtons. Vous parlez de la Norvège. La Norvège a popularisé le ski jusqu'aux États-Unis. On va en venir au ski alpin tel qu'il va se pratiquer maintenant en Autriche, en France et en Suisse. Et pour ouvrir ce chapitre, Erika Stucki, qui est un pont entre les États-Unis et la Suisse, mêlant la musique des alpages suisses au jazz.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Yves Balu, le ski alpin maintenant, voici le passage qu'il faut considérer. Et il a eu lieu autour de ce que les Français s'obstinent à appeler la belle époque.
On accueillait en musique chaque train de skieurs et la montagne s'éveillait au rythme de l'Orphéon. On s'équipait alors chez le fabricant de sonnettes et de piolets. Le ski, écrivait-on, est une longue planche de bois bien sec, d'une longueur égale à la hauteur de l'homme, qui s'attache au pied à l'aide d'une sorte d'étrier qui laisse le talon libre. De longs bâtons ferrés servent de soutien, permettent de se ralentir et de tourner. Au bout d'une heure ou deux d'apprentissage, on arrive à se tenir debout très suffisamment. Naturellement, certains maintiennent les moyens traditionnels de locomotion sur neige. La vogue de la luge bat son plein. Mais le minuscule traîneau de bois a grandi jusqu'à pouvoir porter 6 et 8 personnes et est devenu le bobsleigh. Sa vitesse dépasse les 50 km à l'heure. C'est une vraie griserie. Les skieurs de la belle époque ont créé la belle époque du ski.
En fait, il faudrait partir de bien avant la belle époque. Il faut aller en Suisse, Saint-Moritz, 1864... Et puis, expliquez-vous, Yves Balu, on parle de sport d'hiver au pluriel pendant très longtemps, le ski n'étant qu'un élément parmi d'autres.
Parce que oui, au départ, les sports d'hiver, c'était en gros des distractions qu'on offrait aux touristes. Le problème, simplement, c'est que la montagne, en été, était connue depuis longtemps. Et en particulier, les Suisses étaient très bien équipés pour accueillir les touristes, et notamment les touristes britanniques, qui étaient très prisés, et qui préféraient plutôt la Suisse à la France, parce qu'ils étaient plutôt mieux accueillis, disons. Voilà. Les hôtels étaient plus cossus, et l'accueil était plus agréable. Sauf que ces hôtels-là, en hiver, étaient fermés, et il n'y avait rien à faire. Et un jour, donc, il y a un hôtelier qui a eu l'idée de dire, au moment où ses derniers clients partaient, au mois de septembre, écoutez, si vous voulez, revenez cet hiver.
Il y a du soleil.
Il y a du soleil et le whisky sera gratuit. Johannes Badrut, il a dit, je vous offre le whisky.
Saint-Moritz.
Et alors là, donc, les Anglais ont dit, pourquoi pas, ils sont revenus. Ben, fallait bien les occuper. Ils sont occupés avec tout ce qu'on pouvait faire en hiver, c'est-à-dire le toboggan, le curling, le hockey, la luge, et puis le ski, les débuts du ski. Tout ça, c'était les sports d'hiver, c'est-à-dire toutes les activités qu'on pouvait pratiquer en hiver pour amuser les touristes et pour les faire revenir.
Mais le relief n'est pas le même que en Scandinavie.
Certes,
zones plates sont plus rares.
Alors, pour le curling, ça pose pas de problème, parce que le curling se pratique sur des zones très plates. Mais pour le ski, effectivement, c'est différent, parce que les pentes dans les Alpes sont beaucoup plus raides et plus hautes que dans les pays scandinaves. Et donc, le problème s'est posé rapidement de dire, ces patins-là, pour les courageux qui montaient, parce qu'il n'y avait pas de remontée mécanique à l'époque, ces patins-là, pour descendre, comment on s'y prend? Alors, il y avait différentes techniques. Une qu'on appelait l'arrêt Briançon, qui consistait à s'approcher d'un arbre et à attraper l'arbre pour s'arrêter avant d'aller trop vite, mais c'était ou quelquefois de tomber par terre carrément. Donc on avait un vrai problème, c'était d'apprendre à la technique du ski. Et qu'est-ce qui pouvait apprendre la technique du ski à ceux qui commençaient dans les Alpes? C'était les Norvégiens, enfin des pays scandinaves, qui eux la maîtrisaient parfaitement.
Alors on les fait venir.
Alors on a fait venir des moniteurs de Norvège, de Suède, et c'était donc les premiers moniteurs aussi bien en Suisse qu'en France, dans les Alpes, ce sont eux qui ont appris à se servir des skis, et notamment à se servir de deux bâtons, parce qu'au départ, les premiers skieurs, qui étaient souvent des alpinistes, ils avaient l'habitude de s'appuyer sur leur piolet pour se freiner, donc ils prenaient un grand bâton, ils s'appuyaient dessus pour se freiner.
13h52, quand est-ce qu'on va parler de la France, demandent nos auditeurs. Mais si, on y vient. La France était quand même longtemps dans une position de retrait. En tout cas, c'était un ski utilitaire qui, longtemps, a été pratiqué. Voici un témoignage qui vient d'une ville qui n'a pas été choisie au hasard. Elle va devenir une station, c'est Autran.
Comme l'hiver à Autran dure dans les 4 à 5 mois et qu'il tombe pas mal de neige, moi, j'ai beaucoup utilisé les skis dans mon travail. La technique était moins développée que maintenant, parce que nous n'avions pas des moyens si bien appropriés, mais enfin, c'était un effort assez contenu, assez proportionné, parce que nous avions des skis assez larges et on avait beaucoup plus de peine pour skier. Nous n'avions pas de phare pour quand la neige collait au ski. Nous étions obligés de racler nos skis comme on pouvait, mais il nous manquait de phare.
Nous avons quitté le plateau du Vercors et ses champs de neige où l'on pratique surtout le ski de fond, et nous nous sommes retrouvés maintenant à École en Bauge, où la neige reste également une bonne partie de l'année. Monsieur Gerfaux, vous êtes garde-chef de la réserve nationale des Bauges.
Eh bien, il faut circuler dans la réserve des Bauges en toute saison, en forêt, sur les chemins ou dans les alpages, pour voir les animaux, comme ils se comportent, enfin s'il n'y a pas de braconnage, et pour aussi leur apporter de la nourriture. Alors bien sûr, il y a des amateurs de gibier partout. Alors, dès qu'on a du gibier et des individus, il y en a qui voudraient s'approprier ce gibier, licitement ou irrégulièrement. Et il faut absolument avoir des skis. Et pour la montée, nous mettons des pots sous ces skis. Et à la descente, évidemment, c'est plus facile, mais enfin, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des conditions de neige qui changent quelquefois.
France Inter, 1967. Comment le ski devient-il sportif en France? Et d'ailleurs, Autran n'a-t-il pas un rôle? Parce que c'est à Autran que sont organisées les premières compétitions par le ski club. En 1896.
Plus exactement, les premières sorties de ski, des compétitions, ils n'étaient pas encore là, parce que les malheureux, ils avaient d'abord quelques skis pour beaucoup de skieurs, ils se les partageaient, et puis surtout, ils étaient bien embarrassés pour savoir s'en servir. L'un des pionniers du ski en France, c'est Henri Duhamel, qui avait, en visitant l'exposition universelle à Paris, repéré des skis dans le pavillon scandinave, avait réussi à les acheter, est arrivé là, et il le témoigne lui-même, il le dit lui-même, qu'il se trouvait aussi embarrassé d'en tirer convenablement profit qu'une carpe peut l'être d'une pomme. Voilà, ils étaient avec des skis, ils se disaient qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à l'époque, on appelait ça des expériences de ski. Ouais. On appelait ski, on l'écrivait S-K-Y, on ne sait pas très bien. Voilà. Et donc, il a fallu apprendre à se servir des skis. L'idée au départ, c'était de dire le ski, ça va nous rendre service. Ça va permettre aux alpinistes d'aller en montagne en hiver, alors que jusqu'à présent, on n'y allait qu'en été. Ça va permettre aux paysans de sortir de leurs habitations insalubres et d'aller un petit peu vaquer leurs occupations. Ça va permettre aux militaires de défendre nos frontières.
Parce que les Scandinaves, ils avaient expérimenté des troupes à ski.
Absolument.
Et il faut qu'on parle, parmi les cités françaises du ski, du rôle de Briançon.
Absolument.
Il y a l'arrêt Briançon que vous avez décrit, mais pas seulement.
Pas seulement, parce que c'est à Briançon qu'ont eu les premières expériences de militaires, dans les années 1902-1903. Un jeune officier, le capitaine Clair, s'est dit, les hommes, il faut bien d'abord les occuper, et puis qu'ils soient capables de bouger. Donc il a fait acheter des skis, fait venir des instructeurs norvégiens. Et ils ont même fait des expériences pour savoir qu'est-ce qui était mieux, les raquettes ou les skis? Qu'est-ce qui allait le plus vite? La réponse n'est pas évidente au départ parce que les skieurs étaient si maladroits qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup plus vite que ceux qui avaient des raquettes. Bon, et donc ils ont appris à se servir des skis et on s'est dit voilà, enfin le ski va servir à quelque chose. Le ski c'est un instrument utile pour les paysans, pour les militaires et même pour les facteurs.
Alors Chamonix 1908, là ce sont des vrais compétitions. Chamonix dont vous notez perfidement dans une note que beaucoup d'étrangers pensaient que c'était en Suisse.
Oui, ben souvent. Dans les guides suisses, il y a souvent Chamonix parce que c'était une station que les Anglais aimaient bien. Et donc du coup, il l'avait mise en Suisse parce que c'est la Suisse, c'est leur pays d'élection. Alors Chamonix, il y a eu Chamonix 1908. Avant Chamonix, Montgenèvre 1907, c'était les premières compétitions entre des militaires parce qu'en gros, il y avait les Italiens qui s'étaient mis au ski aussi. Ils appelaient ça la bicyclette des neiges. Et puis les Français, et on s'est dit, dans le fond, si un jour on doit se battre, lequel ira le plus vite que l'autre. Donc, pacifiquement, ils ont fait des compétitions. Et le hasard, vraiment le hasard, a voulu que, à l'occasion de ces compétitions, des gens sont arrivés pour regarder. Des gens qui venaient d'un côté de la ville, des citadins, qui n'étaient pas équipés, qui n'étaient pas instruits. Jusqu'à présent, la montagne, c'était un espèce de sanctuaire. Il y avait tout un rite initiatique, on apprenait la montagne, on apprenait les clubs alpins. Et là, tout d'un coup, ces gens qui déferlent la montagne, qui n'y connaissent rien, c'est presque un sacrilège. Qui disent, mais ça c'est rigolo, ça
nous amuse. Vous allez prononcer le mot futile.
Ben, je vais le prononcer maintenant. Voilà. On est passé du mot utile au mot futile. Tout d'un coup, le ski est apparu comme quelque chose de rigolo, d'un loisir sympathique, et ça a été une flambée. Et c'est ça qui a fait venir en montagne les skieurs, non pas sur l'idée de départ que ça allait être utile, mais simplement que c'était amusant.
Chamonix 1924, premiers Jeux Olympiques, ça. Alors, c'est du sérieux. Ça,
on est revenu à la chose sérieuse, c'est-à-dire des compétitions organisées, des compétitions internationales, cette fois-ci plus entre les militaires mais entre les civils, mais c'était encore en 1924 le ski tel qu'on le pratiquait depuis longtemps dans les pays scandinaves, et du reste les Norvégiens, les Scandinaves se sont battus dans les instances internationales pour empêcher que dans les futures compétitions de ski, on introduise autre chose que le ski de fond. Parce qu'ils excellaient dans le ski de fond, mais le ski effectivement de piste, le ski de descente, ils connaissaient moins bien. Il a fallu se battre pour que les skis de descente, notamment le slalom, soient introduits dans les Jeux Olympiques.
Voilà donc les Jeux Olympiques de Grenoble dans l'ouverture et rappelé, explicité dans une exposition qui a lieu actuellement à Grenoble, non loin de votre maison familiale. Yves Balu, je rappelle votre épopée du ski qui a connu une nouvelle édition chez Artaud en 2014. L'émission a été réalisée par Lise Combe avec à la technique Éric Morin, la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard. Et chez vous, un plan B, Mathieu Vidard, dans oui. La tête au carré?
Oui, c'est ça, Jean. On va chercher d'autres terres à habiter.
Bah oui,
voilà.
Oui, oui.
Donc on a des pistes intéressantes. Il faudrait être patient, mais pourquoi pas.
Donc l'émission qui slalome dans le futur, c'est La tête au carré. Dans un instant, il est 14h. Vous écoutez France Inter.